Aujourd'hui, nous poursuivons avec Jérémie, bien sûr. Et là, nous découvrons quelque chose d'intéressant que j'appellerais la synergie entre Dieu et nous. Donc, Dieu envoie Jérémie voir le potier qui fait donc une poterie qui est ratée, il recommence. Et en fait, la finale est de dire que Dieu dit, ben voilà, parfois je parle d'arracher, de renverser, de détruire, mais cette nation se tourne vers le mal que j'avais condamné, alors je renonce au mal. Se détourne du mal, alors je renonce au mal. Donc au fond, le projet de Dieu dépend un peu de notre conversion. Notre conversion permet l'action divine. Alors ça ne veut pas dire que nous puissions empêcher Dieu d'agir, parce que Dieu peut agir comme il veut, mais ben, il n'en a pas besoin, quoi. Et c'est pour nous qu'il fait ça. Donc en fait, il nous donne l'occasion de nous convertir pour que nous soyons aptes à recevoir ses dons. Bon, c'est le principe du pardon, notamment quand on va se confesser, parfois... Les gens ne reçoivent pas tout à fait les grâces qu'ils attendaient parce qu'il y a un obstacle en eux. L'obstacle est très souvent un pardon à donner qui peut être extrêmement douloureux et profond. C'est pas là-dessus que j'insiste. Mais toute aigreur, toute rancune gardée fait un obstacle en nous à la grâce. Donc le mal est un... Je ne vais pas dire que c'est un désherbant, mais le mal empêche. C'est comme de saler la terre, ça empêche de faire pousser les bonnes herbes. Donc voilà le parallèle avec nos actions, évidemment, qui est là. Et alors on retrouve un peu quelque chose de cela dans l'Évangile, où donc après avoir évoqué hier... le trésor dans le champ, la perle de la part du négociant, tous ces gens-là ont tout laissé pour ce trésor et cette perle. Jésus aborde la question du filet. Un filet, donc... ça veut dire que le règne de Dieu est un trésor, c'est une perle et c'est un filet. C'est un sacré rébus, cette affaire-là. Alors un trésor et une perle, on peut voir, c'est un peu du pour soi, quoi. Un trésor, je l'ai trouvé dans un champ, bon. C'est un peu un hasard. Je suis pas sûr qu'on cherche un trésor dans un champ. Par contre, l'expert en perles, lui, il cherche des perles. Lui, il est dans un état de recherche. Et puis finalement, celui qui jette le filet... il est dans l'expectative, il espère, il va voir ce qu'il va trouver. Il sait qu'il va trouver quelque chose. Lui, il ne cherche plus, il sait qu'il va trouver quelque chose, mais il va voir, voilà, il va voir ce qu'il va trouver. Et il va devoir donc exercer un discernement. Dans ces trois images, il y a la notion du discernement. Je discerne que quand je trouve un trésor, j'achète le champ. Quand je trouve une perle, je laisse tout pour la perle. Et dans mon filet que je ramasse, il va y avoir ce qu'on va garder et ce qu'on va rejeter. Alors, nos textes sont assez prudents, hein, parce que on nous parle d'un filet. Bon, c'est quand même un filet un peu spécial. C'est un sagena ou sagene en grec. Donc c'est un immense filet, c'est un très très grand filet. C'est pas du tout le filet de pêche que jettera Pierre quand Jésus lui dira « jette le filet ». Voilà. C'est pas le même, c'est un très très grand filet celui-là. Et puis, donc évidemment, ça figure, comme le dit Jésus, hein, la fin du monde, mais ça figure aussi des choses qui sont un peu édulcorées dans nos traductions. À savoir, on nous dit, on garde le bon et on jette le mauvais. En fait, le mauvais, c'est le sapra, le sapros. Et le sapros, c'est l'arbre bon et l'arbre mauvais. Et sapra, en grec, ça veut dire putrifié, pourri, corrompu, et en dernier sens, sans valeur. Donc, c'est beaucoup plus violent que ce que nous lisons. On va jeter ce qui est pourri. Ça va de soi, c'est évident. Donc, ça veut dire que nos actions peuvent nous faire pourrir. Ou le fait que nous nous baignions dans le mal, que nous nous y complaisions, peut nous faire pourrir de l'intérieur, sans peut-être même qu'on s'en rende compte. Je pense à l'instant au roi Hérode qui est acclamé, mais c'est pas un homme qui parle, c'est un dieu, et le texte dit, et il mourut à l'instant rongé de vers. Ça doit être épouvantable à voir. Donc il avait l'air en vie et les vers tout à coup le bouffent de l'intérieur. Voilà, c'est pourri ça. Et puis alors on a cette finale. Alors Jésus dit, est-ce que vous avez bien compris? Alors oui, on a compris. C'est un oui un peu laconique, il faut bien le dire. Et Jésus ajoute un truc... Genre cheveux sur la soupe, à première lecture. C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. De quoi ça s'agit? On voit pas très bien la logique. Alors, c'est ainsi que, il n'y a pas tout à fait écrit en grec, il y a écrit ainsi. Voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce qui précède ou pas? C'est assez compliqué à savoir. Il me semble intéressant. En revanche, c'est tout simplement, quand on bute là-dessus, c'est d'aller regarder de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un scribe? Alors, dans le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, on trouve quelque chose d'assez intéressant. Ce sont les servants de la première période du second temple, chargés d'enseigner la loi orale et de promulguer les décrets conformément à la Torah. Plus tard, ils furent les copistes et les conservateurs des textes sacrés. Ils sont experts du texte biblique et de la tradition orale. Voilà, alors, historiquement, l'époque des scribes s'ouvre avec Esdras, dans le livre de Néhémie, le scribe par excellence qui ramena les juifs de Babylone en Judée, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et le terme scribe, sopher, dérive du verbe hébraïque qui signifie compter. Donc les scribes comptaient les lettres de la Bible, avaient le souci de la prononciation la plus exacte de chacun de ces mots. Alors, ça c'est très intéressant, parce que donc le scribe c'est pas un guignol, c'est vraiment un expert le scribe. Et Jésus dit, le scribe devenu disciple du royaume de Dieu. Donc un scribe n'est pas nécessairement disciple du royaume de Dieu. Il faut encore qu'il le devienne. Et à partir du moment où il le devient, eh bien de son trésor c'est l'écriture. C'est tout ce qu'il sait. C'est cette facilité qu'il a à connaître l'écriture, qu'il a tellement mémorisée, qu'il a commentée, qu'il a traduite. Esdras, on dit que... Au retour de l'exil, les Lévites lisaient l'écriture et Esdras traduisait en araméen pour que les gens comprennent, car ils avaient perdu le sens de l'hébreu, ils ne comprenaient plus l'hébreu, et la langue vulgaire qu'ils avaient apprise en déportation à Babylone, c'était l'araméen. Donc c'est un traducteur, le scribe. Et Jésus dit, voilà, donc un scribe qui est devenu disciple, c'est un type extraordinaire parce qu'il connaît l'Ancien Testament, il connaît les Écritures, à ce moment-là il n'y a pas d'Ancien ni de Nouveau Testament, c'est un peu un écueil, je crois parfois on voit des commentaires qui nous disent, ah ben oui, ça veut dire qu'il faut tirer de l'Ancien et du Nouveau Testament. Oui, sauf qu'au moment où Jésus parle, il n'y a pas de Nouveau Testament, le Nouveau Testament c'est lui. Et il n'est pas mis par écrit. Donc c'est un peu un anachronisme, je pense. Et donc en fait, ceci montre que le scribe qui devient disciple est une perle lui-même. Il va rayonner, il va être tellement possédé par l'écriture sainte que ça va dégouliner et qu'il va en produire de nouvelles... de nouvelles interprétations en disant voilà au fond ce que ça veut dire... nous ne l'avions pas vu, nous ne l'avions pas encore entendu. Voilà. Donc, je pense que c'est une très grande invitation à la vie. La vie comme signe du royaume. L'interprétation figée, ça n'est pas la vie. Cela me fait penser à cette citation de Paul Valéry sur la tradition, qui est « La tradition ne consiste pas à faire ce qu'on a déjà fait, mais consiste à trouver l'esprit qui a fait faire ce qu'on a fait et qui ferait faire des choses aujourd'hui tout à fait différentes. » Je pense que c'est exactement l'esprit de ce que Jésus dit à la fin. Voilà, donc pour nous, sachons nous laisser inspirer par l'Esprit Saint sur les choses nouvelles qui sont appuisées dans les choses anciennes et qui n'ont pas encore éclos. Quand on voit un petit enfant, on peut trouver qu'il a le nez de sa grand-mère, qu'il a je ne sais pas quoi de son arrière-grand-père. Et il est porteur d'anciens et de nouveaux, et c'est le message de la vie. Et bien que la vie nous entraîne, elle aussi, dans cette nouveauté perpétuelle qui s'enracine dans ce qui est ancien, vrai, véritable. Amen.